Bonjour Père Bertrand de Bourran.
Bonjour.
Vous êtes originaire de Dax et de passage dans notre région pour la rentrée des étudiants. Vous êtes prêtre et avez passé 27 ans en mission à Madagascar. Vous êtes aujourd'hui conseiller pour les missions étrangères de Paris. Et vous étiez donc à la rentrée des étudiants de la paroisse toulousaine. Et vous avez parlé des missions étrangères de Paris et de la mission. Qu'est-ce que vous avez dit aux jeunes et qu'est-ce que vous leur diriez encore aux jeunes qui s'interrogent sur un potentiel engagement au service de la mission?
Alors, j'ai participé à la messe à la cathédrale Saint-Étienne, et puis à la suite de la messe, nous avons eu le forum des jeunes, et c'est là où j'ai pu rencontrer des jeunes. Et nous avons parlé avec un flyer, parlé du volontariat, mais pour inviter les jeunes à sortir un peu d'eux, aller au nom de leur foi, aller témoigner et s'engager dans une autre église. Et nous, on propose en Asie ou dans l'océan Indien, Madagascar et l'île Maurice, pour se mettre au service des communautés chrétiennes ou des jeunes dans ces pays et amener leurs compétences et témoigner de leur foi en même temps, du vivre avec ces jeunes. Et ça leur permet de s'ouvrir à une autre église, de comprendre une autre église. Et au retour, on les invite à s'engager dans l'église qui est en France, dans leur paroisse, dans les mouvements. Et c'est des jeunes souvent qu'on retrouve qui sont motivés et qui donnent un nouveau témoignage par l'expérience de vie et d'église qu'ils ont eue dans un autre pays, où souvent ils ont vécu la simplicité de la relation, la simplicité de l'accueil, la simplicité de la vie quotidienne.
Et ils sont marqués. Une fraîcheur dans la foi aussi, certainement.
Fraîcheur dans la foi. Et ce qui les marque, à vie. Certains, on les retrouve après 10 ans, 15 ans, ils sont toujours marqués. J'en ai rencontré au forum, qui étaient revenus, depuis plusieurs années, qui sont toujours marqués. Ils ont toujours cette jeunesse dans la foi, grâce à cette expérience d'église.
Et puis, à vous entendre, Père de Bourran, on comprend que finalement, c'est un bénéfice non seulement pour l'église locale qui les accueille, et aussi pour l'église de France qui les retrouve après cette mission.
Oui. C'est à Madagascar, chaque année, j'ai organisé, pendant 20 ans, j'ai organisé une session pour les volontaires de plusieurs organismes qui venaient à Madagascar, et on les formait à s'intégrer dans l'église qui était à Madagascar et à s'engager dans l'église étaient en France à leur retour. Ouais. Et tous, ils ont vécu une expérience inoubliable.
Alors, vous parlez de Madagascar et justement, j'aimerais bien qu'on y revienne. Vous y avez été de 2010 à 2024. Vous étiez prêtre pour la paroisse de Tsara Asina, bien, dans le diocèse de Port-Berger au nord-est de l'île. Donc, une paroisse qui regroupe 38 villages, 80 000 habitants, dont 2500 de catholiques pratiquants. De votre paroisse dépendent notamment des villages de brousse isolés. Comment la foi se vit-elle en dépit du petit nombre de prêtres?
À Madagascar, c'est une grande île qui est plus grande que la France. Hein. Et les chrétiens se retrouvent dans les communautés, dans chaque village. Tous les dimanches, les chrétiens se retrouvent pour prier. Et la prière est animée par un catéchiste qui a été formé. Nous, il devait faire 3 fois un mois de formation, 3 mois de juillet sur 3 ans. Et il animait la prière le dimanche. Donc, ils n'avaient pas l'Eucharistie, mais ils se retrouvaient autour de la parole de Dieu. Et ils faisaient vivre la communauté villageoise. Alors des fois, c'était petites communautés où ils étaient 10, 15, pour des gros villages. Dans la zone où j'étais, c'est pas tout Madagascar comme cela. Dans la zone où j'étais, on avait 2% de catholiques, donc on était un peu le dernier diocèse. Mais ils se retrouvaient pour prier autour de la parole de Dieu. Et bon, ils chantaient, ils priaient, ils échangeaient, ils avaient les intentions de prière universelle aussi, et ils portaient la communauté. Et ils avaient une prière, tout Madagascar a la même prière pour les vocations, et tous les dimanches, tous les chrétiens, tous les gens qui prient à Madagascar, prient la prière pour les vocations, pour demander des prêtres. Alors certains diocèses, où il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de prêtres, et nous on est très peu de prêtres. Quand je suis arrivé dans le diocèse, en 1996, il y avait 5 prêtres pour un diocèse de 20 000 km². Ça fait plus de 3 fois la superficie du diocèse de Toulouse.
De la Haute-Garonne. Ouais.
Et la première paroisse où j'étais, on était 4 prêtres pour 10 000 km². Ça fait 1,5 fois le diocèse. Et il y avait plus de 100 communautés. Et on visitait les communautés. Donc on partait dans certaines zones, comme à Tsara Asina, pareil, on part 8-10 jours sac à dos,
Comme une mission, en fait.
Et on va de village en village tous les jours, ou tous les deux jours, on change de village, on arrive à la nouvelle communauté, on est reçu par le catéchiste, et on voit la vie de la communauté, on discute, on prend du temps de formation. Avant l'Eucharistie, souvent on prenait une heure, deux heures d'enseignement de la parole, des événements, et on faisait une catéchèse.
Et c'est aussi l'occasion, j'imagine, de donner les sacrements.
Voilà, les étapes de baptême, souvent les catéchumènes, et puis les communions, les baptêmes, souvent les baptêmes, les mariages. Dans la zone où j'étais, il y en avait beaucoup moins, on faisait peu de mariages. C'était une nouvelle chrétienté. C'était beaucoup de catéchumènes qui cheminaient. Et les gens devenaient catéchumènes parce qu'ils voulaient quitter l'emprise un peu des on peut dire entre parenthèses, des sorciers, la culture traditionnelle qui les étouffe et qui les emprisonne.
Du vaudou.
Vaudou, c'est un peu le même mot, c'est la culture des ancêtres. Et ils devenaient chrétiens pour se libérer. On devient chrétien, Jésus libérateur. Jésus nous libère. Et ici en France, on fait plutôt l'inverse. Mais on pense être libéré en sortant de l'Église. Mais là-bas, c'est Jésus-Christ nous libère. Et nous projette, le Christ nous projette dans l'avenir. Il nous offre la vie éternelle. Il nous projette un avenir que la religion traditionnelle nous tourne vers le passé. Et donc, on cheminait chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle communauté. On parlait de cela, on parlait de la catéchèse, on parlait de l'Église, et on les ouvrait à l'Église universelle aussi.
En tout cas, cet exemple de petites cellules d'Église qui se retrouvent tous les dimanches pour prier, voilà, c'est quelque chose qui peut nous inspirer, nous, dans nos régions rurales de Midi-Pyrénées ou plus largement d'Occitanie, avec le passage d'un prêtre pour les sacrements, et puis la prière pour la vocation, qui finalement porte du fruit, en tout cas à Madagascar, parce que vous me disiez qu'il y avait énormément de séminaristes.
Oui, il y a beaucoup de séminaristes, surtout sur les plateaux, mais aussi sur les côtes. Maintenant, il y a des séminaristes. Mais le fait de se retrouver, il faut apprendre à se retrouver entre chrétiens et prier ensemble, sans obligatoirement avoir un prêtre. Bon, l'idéal, c'est quand il y a un prêtre, mais quand il n'y a pas de prêtre, savoir se retrouver ensemble et prier ensemble, oser se lancer, se former pour prier ensemble et se retrouver autour de la parole. Et déjà, le fait de se retrouver ensemble et de prier le dimanche, quand les prêtres sont loin, c'est le bonheur.
C'est le bonheur pour prier. Oui, et puis c'est ce que dit le Christ, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
Voilà. Ouais, voilà.
Alors, en 2023, la Banque mondiale estimait à 30,3 millions d'habitants la population de Madagascar. Malgré ses ressources naturelles considérables et une biodiversité sans pareil, sa population connaissait un taux de pauvreté de 80,7%, ce qui donne 2,15 $ par personne et par jour pour vivre. Comment cette situation, Père de Bourran, cette situation de pauvreté évolue-t-elle et quelles en sont les raisons?
Alors, c'est la pauvreté, mais moi j'étais à la campagne où les gens n'avaient pas d'argent ou très peu d'argent, ils n'avaient des fois même pas un euro dans la maison, mais ils vivaient. Il y avait du riz, il y avait des haricots, enfin ils mangeaient en général, sauf catastrophe climatique, les gens mangent, les parents se débrouillent à nourrir la famille. La pauvreté, c'est s'il y avait un malade dans la maison et qu'il fallait le soigner ou le faire opérer, alors là il fallait vendre un bœuf, il fallait vendre un bout de terrain. Là, c'était le souci. Compliqué à comparer. Comme c'est très rural, ils vivent comme ici, il y a 50 à 60 ans.
Ils se suffisent à eux-mêmes.
Ils sont un peu en autosuffisance, ouais, les gens. Mais donc, ils savent faire la fête, accueillir une naissance, accompagner un malade, accompagner un décès. Ils vivent. Ce n'est pas la pauvreté comme dans les bidonvilles ou comme ça, ils savent. Ils savaient tous cultivent, et les gens cultivent. La pauvreté a un autre sens, mais il ne faut pas oublier, moi j'y suis resté en 25 ans, la population double tous les 25 ans. Quand je suis arrivé comme prêtre en 96, il y avait moins de 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à plus de 30 millions.
Oui.
Donc c'est un facteur considérable à prendre en compte. Et malgré cela, bon, les gens, ils arrivent à vivre. Il y a eu des développements. En 25 ans, moi, j'ai vu des développements. Bon, le téléphone est arrivé partout. Le vélo, la bicyclette, les motos sont arrivés. Des machines aussi qui pilent le riz. Avant, c'était les femmes qui pilaient le riz à la main. Maintenant, dans tous les villages, il y a une machine avec un moteur à diesel, à gasoil, qui pour piler le riz. Il y a l'électrification des villages par des organismes. Aujourd'hui, se développe un peu. En payant l'électricité par le téléphone, avec le téléphone. par des,
mais
des
puces. Peuvent, est-ce qu'ils peuvent payer cette électricité, alors, justement?
Les gens, ils ont un peu d'argent. Certes, ça dépend des zones. Dans certaines zones où l'argent circule, ils vendent du poulet, un peu de riz, ils vendent des haricots et ils arrivent à vivre. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup, mais ils arrivent à vivre. Alors, dans les villes, c'est beaucoup plus compliqué. Dans les villes, les difficultés, la pauvreté, on la retrouve. Mais le blocage à Madagascar, il y a un blocage culturel, à mon avis. C'est plus que technique ou plus qu'organisationnel. C'est un blocage culturel, du vivre ensemble et de l'autorité. Des gens qui vivent difficile entre les ethnies ou entre les groupes dans les familles d'avoir de l'autorité. Et les problèmes qu'on retrouve au niveau de la gouvernance, au niveau de la présidence ou des ministres, on la retrouve au niveau du village, au niveau... Celui qui a un petit pouvoir, il essaie d'en profiter. Mais c'est...
Au détriment des autres.
Voilà. Mmh. Je pense que le frein il est culturel. Et la Banque mondiale, ils avaient le mystère malgache. Ils demandaient pourquoi ce pays qui n'a jamais eu de guerre n'arrive pas à se développer. Mais le problème, il est culturel. Alors, on a travaillé beaucoup, on a beaucoup construit des écoles. Moi, j'avais, sur la paroisse, une petite paroisse, on avait plus de 2000 scolaires. Et dans les 11 écoles.
Des écoles de brousse. Des églises aussi.
L'objectif, c'est de mettre les gens debout. C'est de mettre que les gens puissent avoir une vie digne. Donc, pour nous, ça passe par l'école. Aller à l'école, puis pouvoir monter. Et après, on a aidé des jeunes pour les études secondaires. Les parents arrivent jusqu'au niveau du bac, mais après, jusqu'au niveau secondaire, dans les universités, c'est plus compliqué. Donc, on avait lancé des bourses pour les étudiants au niveau secondaire. Et on a ouvert aussi des dispensaires, vu le problème de la santé. Commencer un petit dispensaire, et puis après un troisième, un centre médical, tenu par des sœurs chaque fois. On a beaucoup de religieuses. Et à Madagascar, il y a beaucoup de congrégations de religieuses, des religieuses qui sont un peu partout, même des fois dans des coins où il n'y a pas de prêtres. On a des religieuses qui animent des paroisses, et même des secteurs des fois, et qui font un travail extraordinaire. Les sœurs font un travail extraordinaire.
Donc finalement, cette présence de sœurs et le fait que vous avez fondé des écoles, des dispensaires, des églises, finalement, c'est un moyen d'évangélisation.
C'est un moyen aux jeunes de rencontrer le Christ. Mmh. Ils nous demandent pourquoi vous faites cela. Et souvent, moi, j'ai fait j'ai spécialisé dans les formations pour les accoucheuses traditionnelles. Ce n'est pas le travail du prêtre, normalement. Mais vu les difficultés dans la première paroisse, très isolée, on avait lancé des formations. Et un non-chrétien m'avait demandé, mais quel est l'amour qui vous fait faire ça? Et il ne comprenait pas pourquoi on ne demandait rien et on venait les aider à se former, à avoir une vie plus digne. Ça les bouscule. Dans certains coins, aider les gens sans rien demander en contrepartie, ça interroge. Et ils se demandent, mais le pourquoi, la raison de cela. Et c'est comme un prêtre qui demandait un jour à une personne qui voulait être baptisée, qui était catéchumène, il demandait, mais pourquoi vous voulez être catéchumène? Il lui a dit, un jour je marchais sur la diguette de la rizière, et j'avais le bébé dans le dos, un bagage sur la tête et un bagage à la mer. Et vous arriviez en face, vous êtes mis sur le côté pour me laisser passer. Rien que ça. Il m'a dit que c'est un blanc, en plus d'un missionnaire, et que le missionnaire fasse ça, le blanc, son Dieu doit être bon. Ah. Et elle a été catéchumène et baptisée après. Voilà. C'est des fois, c'est un petit geste dans la vie quotidienne qui interroge les gens et qui bouscule leur raisonnement.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Père de Bertrand de Bourran. Et donc, nous vous disons à bientôt, parce que peut-être que de Paris, vous reviendrez dans notre région.
De Toulouse. Merci à vous. Merci de votre accueil.